Je suis Guillaume Coulon et bienvenue dans cet épisode du podcast Une certaine idée de l'Europe. Aujourd'hui, bon nombre d'actualités, que ce soit pour l'Union européenne ou pour le Conseil de l'Europe. Pour ce qui est de l'Union européenne, nous parlerons d'une décision de la CJUE sur les données personnelles, de la réélection de Orban, entre autres. Pour ce qui est du Conseil de l'Europe, on parlera d'un arrêt récent de la CEDH, d'un rapport du CPT sur la Roumanie. Plus avant, très chers auditeurs, commençons par l'actualité du Conseil de l'Europe. Tout d'abord, un forum sur le présent et l'avenir de l'éducation à la citoyenneté et aux droits humains en Europe s'est ouvert à Turin, en Italie, le 11 avril 2022. Il a pour but de renforcer la qualité, la reconnaissance et la portée de l'éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l'homme auprès des jeunes. Cet événement est organisé du 11 au 13 avril par les secteurs de l'éducation et de la jeunesse du Conseil de l'Europe et le gouvernement italien en coopération avec Amnesty International, la ville de Turin, le Conseil national de la jeunesse italienne et le Forum européen de la jeunesse. Environ 400 participants vont échanger leur expérience en tant qu'éducateurs et militants des droits de l'homme, examiner la mise en œuvre de la Charte du Conseil de l'Europe sur l'éducation à la citoyenneté démocratique et l'éducation aux droits de l'homme et identifier les priorités pour les 5 années à venir. Le forum examinera également les réussites et les difficultés dans la mise en œuvre de la charte dans un contexte de crise multiple, notamment la pandémie de Covid-19 et l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine, et renforcera les partenariats entre les différents éducateurs, formateurs, autorités et décideurs politiques, ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales. Ensuite, les ministres de l'égalité de genre et du travail de toutes les régions d'Europe ont participé à une conférence à haut niveau à Rome le mardi 12 avril 2022 pour examiner comment relever le défi d'améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour les femmes. Faire en sorte que les responsabilités familiales soient mieux partagées, améliorer l'égalité entre les femmes et les hommes et prévenir la discrimination fondée sur le genre. La division des tâches liées aux soins pendant la pandémie de Covid-19 et l'impact du télétravail et du travail à temps partiel, y compris du point de vue de l'employeur, ont également été débattus. Les participants ont réitéré l'importance de créer de meilleures conditions propices à l'indépendance économique des femmes. Malgré les écarts persistants entre les sexes dans le secteur public et privé, de manière à contribuer aux objectifs de la stratégie du Conseil de l'Europe pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Les participants à la conférence ont adopté des conclusions qui guideront les travaux du Conseil de l'Europe dans ce domaine. De plus, le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, CPT, a demandé aux autorités roumaines de poursuivre avec vigueur la réforme du système pénitentiaire et de remédier à des lacunes graves et persistantes. Dans son rapport relatif à la visite ad hoc effectuée en Roumanie du 10 au 21 mai 2021, essentiellement axée sur le traitement des personnes privés de liberté dans les prisons et les établissements de police. Le CPT exhorte les autorités à prendre des mesures prioritaires dans un certain nombre de domaines. Améliorer les conditions de vie, proposer un éventail d'activités motivantes aux détenus afin de les aider à préparer leur réinsertion dans la société, augmenter les effectifs du personnel pénitentiaire et s'assurer que les services de santé répondent aux besoins des détenus. Enfin, dans l'arrêt Lings contre Danemark, rendu le 12 avril 2022 par la CEDH, qui a dû se prononcer sur le fait qu'une condamnation pour suicide assisté n'a pas emporté violation du droit à la liberté d'expression. Le requérant, qui est médecin, est le fondateur d'une organisation militant en faveur du suicide assisté, médecin en faveur de l'euthanasie. L'affaire concerne sa condamnation pour 2 suicides assistés et une tentative de suicide assisté. Le requérant affirmait qu'il s'était borné à diffuser des informations à propos du suicide. La Cour juge en particulier que les autorités ont agi dans les limites de l'ample marge d'appréciation qui est la leur lorsqu'elles ont condamné M. Lings. La législation pertinente érigeait en infraction le suicide assisté, acte dont le requérant a été reconnu coupable et non le fait de diffuser des informations sur le suicide. Les buts poursuivis par les autorités, c'est-à-dire la protection de la santé, de la morale et des droits d'autrui, étaient légitimes. Par conséquent, la Cour estime qu'il n'y a pas violation de l'article 10 de la CESDH sur la liberté d'expression et ne condamne pas le Danemark. Passons à l'actualité de l'Union européenne. Tout d'abord, l'UE a décidé, lundi 11 avril 2022, d'arrêter ses missions de formation et d'entraînement militaire au Mali, mais restera au Sahel et se déploiera dans les pays voisins, a annoncé le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell. L'Allemagne envisage de retirer ses militaires présents au Mali dans le cadre de la mission de formation de l'UE et de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. La ministre des Affaires étrangères allemande, Annalena Baerbock, a prévu de rencontrer le chef de la junte malienne lors d'un déplacement cette semaine au Mali. Elle veut se faire une idée précise de la situation politique et sécuritaire avant de décider du maintien ou non de la Bundeswehr, a expliqué un porte-parole du ministère. Les militaires ont pris le pouvoir au Mali lors de 2 coups d'État en août 2020 puis en mai 2021. Le principal problème posé à l'UE est la présence de mercenaires russes du groupe Wagner, venus au Mali à l'appel de la junte, et la collaboration d'unités de l'armée malienne formées par l'UE à leurs activités. Les Européens réclament une enquête indépendante sur les événements qui se sont produits à Moura, dans le centre du pays, entre le 27 et le 31 mars. L'armée dit avoir neutralisé 203 djihadistes lors d'une opération d'envergure, mais des témoignages font état de l'exécution en masse de civils par des soldats maliens et des combattants étrangers. Ensuite, Ursula von der Leyen n'aura guère attendu avant de déclencher une riposte massive. 2 jours seulement après l'écrasante réélection du Premier ministre Viktor Orban en Hongrie, le 3 avril 2022, la présidente de la Commission européenne annonçait l'activation d'un mécanisme de conditionnalité visant a bloqué le versement des aides européennes contre un État membre violant l'état de droit. Cette arme législative, utilisée pour la première fois, pourrait priver la Hongrie de 40 milliards d'euros de subventions, 6 à 9 mois seront nécessaires pour la mise en œuvre de ce dispositif, qui devra ensuite être validé par la majorité qualifiée de 15 des 27 États membres, représentant 65% de la population européenne. L'UE épingle Budapest pour son système judiciaire, son déséquilibre des pouvoirs, l'attribution frauduleuse de marchés publics et sa lutte insuffisante contre la corruption. Mardi 12 avril, des ministres des 27 pays européens se sont réunis au Luxembourg pour débattre de la situation de l'état de droit dans 5 pays membres, dont la Hongrie. La ministre hongroise de la Justice, Judith Varga, a affirmé que ses concitoyens ne partageaient pas les inquiétudes de la Commission européenne, comme l'aurait prouvé l'imposante majorité donnée au gouvernement Orbán. Mais un ministre ne va pas remettre en cause la politique menée par son propre gouvernement. Son avis est forcément biaisé. Et l'argument de la reconduction d'Orbán en tant que président ne précise pas les abstentions qu'il y a pu y avoir lors des scrutins, remettant en cause sa légitimité. De plus, la conservation des données mobiles par l'Irlande et leur utilisation dans le procès contre un Irlandais condamné pour meurtre en 2015 vont à l'encontre de la législation européenne, a statué mardi 5 avril 2022 la Cour de justice de l'UE. Graham Dwyer, 49 ans, a été condamné en 2015 à perpétuité pour le meurtre 3 ans plus tôt d'Hélène O'Hara. Le verdict s'était appuyé sur des preuves obtenues dans les données de son téléphone portable. Graham Dwyer entretenait une liaison avec sa victime et les révélations lors de son procès sur ses pratiques sadomasochistes avaient choqué l'opinion publique irlandaise. En 2018, la Haute Cour irlandaise avait estimé que la façon dont avaient été utilisées les données mobiles du meurtrier dans le procès enfreignait la loi européenne, ce qu'avait contesté l'État devant la Cour suprême irlandaise, qui avait décidé de renvoyer l'affaire devant la justice européenne. La CJUE, qui siège à Luxembourg, est notamment compétente pour juger les recours portés devant elle par les juridictions nationales qui l'interrogent sur l'interprétation du droit de l'UE en vue de son application dans le litige dont elles sont saisies. Dans sa décision, la CJUE a réaffirmé un arrêt d'octobre 2020 soulignant que le droit européen s'opposait à la conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion à des fins de lutte contre la criminalité. La lutte contre la criminalité grave, aussi fondamentale qu'elle soit, ne justifie pas en soi une telle conservation des données, a ajouté la CJUE. L'affaire va désormais retourner devant la Cour suprême irlandaise pour qu'elle rende son jugement final en prenant en compte la décision européenne. Par ailleurs, les eurodéputés veulent que toutes les entreprises d'au moins 50 salariés divulguent des informations sur les rémunérations de leurs collaborateurs. « Nous n'avons plus de temps à perdre », s'est félicitée la députée européenne Samira Raffaella. Alors que les écarts de salaire entre les femmes et les hommes se résorbent difficilement en France et dans les pays voisins, Le Parlement européen a décidé d'accélérer la cadence en votant le 5 avril 2022 en faveur de la transparence des rémunérations. En pratique, les entreprises de plus de 50 salariés seraient dans l'obligation de divulguer des informations permettant de comparer plus facilement les niveaux de rémunération entre collaborateurs. Et à partir de 2,5% d'écart salarial entre les hommes et les femmes, les employeurs devraient mettre en place un plan d'action très attendu. Ce vote reprend la proposition de directive de la Commission européenne visant à réduire l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Mais en faisant un pas de plus, l'exécutif européen ne visait que les entreprises de 250 salariés ou plus. Dans le détail, le texte de la Commission prévoit qu'une communication soit faite tous les ans par les entreprises sur les niveaux de rémunération par catégorie de salaire et par sexe, sans qu'il soit question de divulguer les salaires individuels. Le texte ne définit pas non plus la teneur du plan d'action. Quant aux sanctions à mettre en place en cas de discrimination avérée, elles sont largement laissées à l'appréciation des États. D'autre part, la communauté internationale condamne l'attaque de la gare de Kramatorsk qui a tué de nombreux civils vendredi 8 avril 2022. Ce même jour, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est allée en visite sur le terrain. Le visage grave, Ursula von der Leyen se recueille devant les victimes du massacre de Boutcha en Ukraine. Vendredi 8 avril, 6 jours après la macabre découverte des dizaines de civils tués, la présidente de la Commission européenne a tenu à venir en Ukraine pour dénoncer les crimes commis durant la guerre. À Boutcha, nous avons vu l'humanité réduite à néant. Le monde entier partage le deuil de ses habitants, a-t-elle déclaré. Ensuite, en ce qui concerne l'inflation, la BCE prend le contre-pied des autres banques centrales. L'institution monétaire de la zone euro laisse ses taux directeurs inchangés. Malgré une inflation qui a atteint 7,5% en mars, précisant que l'arrêt de ses achats d'actifs débutera au cours du troisième trimestre sans préciser son calendrier. Sa présidente, Christine Lagarde, justifie cet attentisme par la guerre en Ukraine qui va peser sur la croissance européenne, mais elle se dit prête à intervenir si les circonstances l'exigent. De plus, le 12 avril 2022, l'EFSA, Autorité européenne de sécurité des aliments, et l'ECDC, Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, ont publié un rapport commun suite à l'évaluation urgente relative au foyer épidémique multipays de Salmonella lié à des produits chocolatés. Au 8 avril 2022, 150 cas confirmés et probables de Salmonelle avaient été signalés dans 9 pays de l'Union européenne : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Irlande, Pays-Bas et Suède, ainsi qu'en Norvège et au Royaume-Uni, le premier cas étant apparu le 21 décembre 2021 au Royaume-Uni. Les infections se sont produites principalement chez les enfants de moins de 10 ans. Selon les experts de l'EFSA et de l'ECDC, des investigations supplémentaires sont nécessaires pour identifier la source exacte et le moment précis de la contamination, ainsi que les facteurs possibles qui y ont contribué. L'évaluation d'une utilisation plus large de matières premières contaminées dans d'autres usines de transformation devra également être effectuées. Enfin, les fonds des criminels russes sont dans le viseur d'Europol. L'Office européen de police a annoncé lundi 11 avril 2022 avoir lancé une opération visant les avoirs des personnes et entreprises russes sanctionnées en raison de la guerre en Ukraine. L'agence, qui siège à La Haye, a lancé cette opération baptisée Oscar, conjointement avec les États membres de l'UE ainsi que les agences Eurojust et Frontex. L'opération vise à soutenir les enquêtes financières des États membres de l'UE ciblant les avoirs criminels détenus par des personnes physiques et morales sanctionnées en relation avec l'invasion russe de l'Ukraine, a confirmé Europol. Pour remplir cette mission, Europol facilitera l'échange d'informations et de renseignements entre partenaires et fournira un soutien opérationnel dans un certain nombre d'enquêtes financières visant des avoirs criminels et le contournement des sanctions économiques de l'UE liées à l'invasion de l'Ukraine. Europol fournira en outre un soutien analytique sur mesure aux enquêtes, une expertise médico-légale et technique et un soutien financier aux autorités nationales compétentes. L'Agence européenne pour la coopération judiciaire, Eurojust, facilitera de son côté l'échange d'informations stratégiques et opérationnelles, offrira une assistance et un soutien juridique et renforcera la coopération entre les autorités nationales d'enquête et judiciaires. Frontex contribuera pour sa part à l'opération en renforçant le contrôle des personnes qui franchissent les frontières extérieures de l'UE et tombent sous le coup des sanctions. C'est la fin de cet épisode. J'espère vous retrouver au prochain pour vous maintenir informé sur l'actualité européenne. Vous pouvez également suivre le compte Instagram officiel du podcast Une Certaine